Bon, écoutez, bonsoir et bienvenue à tous pour cette sixième séance sur le cycle sur la technologie. On t'a consacré ce soir aux origines et aux évolutions des idées transhumanistes. Nous avons beaucoup de plaisir d'accueillir Rémi Soussan. Rémi Soussan est journaliste. Il collabore notamment à l'excellentissime Internet Actu. Il est membre de l'Association française de transhumanisme et s'intéresse aux nouvelles technologies, notamment ce qui s'appelle les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, et aux mouvements culturels et contre-culturels qui s'en inspirent. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le fameux « Utopie post-humaine, contre-culture, cyberculture et culture du chaos », et vient de publier « Frontières grises, nouveaux savoirs, nouvelles croyances et stupidité du cerveau » aux éditions François Bourin, où il analyse les questions de « quantified self », de la neurodiversité, voire de la neurothéologie, du genre, du body hacking, de l'économie comportementale et des médias, qui ensemble sont en train de modifier notre conception de l'homme et ouvrent une phase particulièrement intéressante de son évolution. Il sera secondé par Gabriel Dort du groupe Vaudois, instigateur et grand chambellan de ce cycle, qui se penche particulièrement lui aussi sur le phénomène transhumaniste à l'Université de Lausanne. Cette soirée est placée sous le signe de la collaboration avec le programme de formation de la HEP, de l'UNIL et de l'EPFL, dans le cadre du programme L'Homme Augmenté, Corps et Techniques. Nous remercions tout particulièrement Nicole Durich-Gautier et Claire Cliva pour leur participation. Et je signale que ceux qui veulent faire signer leur fiche pourront le faire en rencontrant Nicole plus tard. La prochaine séance aura lieu mercredi 30 avril à 20h30 sous le titre alléchant de « Ces machines qui nous imaginent ». À cette occasion, nous aurons le plaisir de recevoir la visite de Cléo Collomb, doctorante en philosophie à l'Université technologique de Compiègne et à l'Université libre de Bruxelles, ainsi qu'Olivier Néraud, fondateur de la galerie d'art H+ à Lyon, docteur en sciences cognitives. Aucune soirée ne saurait se dérouler sans un remerciement profond pour la maison de quartier avec laquelle nous nous sommes embarqués dans cette aventure philosophique sans précédent. Merci donc à Vincent Cruchon et à toute son équipe. Et j'aimerais aussi terminer cette courte introduction en vous rappelant que le groupe Vaudois organise des cycles et que nous avons une newsletter. Donc si vous pensez que notre engagement a quelque valeur que ce soit, ce serait bien, vous pouvez vous y inscrire. Et puis ceux qui veulent nous rejoindre et devenir membres peuvent le faire aussi. Voilà. Je passe la parole à Rémi maintenant.
Tu as la main ou... Voilà, non, c'est peut-être plus simple. Ça devrait renverser. Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc, effectivement, je vais essayer de tracer un petit peu l'historique de cette étrange chose qu'on appelle le transhumanisme. Alors, bon, bah, d'abord, on va peut-être commencer par une petite définition pour ceux qui ne connaissent pas trop cette idée. C'est l'idée, alors je dis bien l'idée, je ne dis pas le mouvement, je ne dis pas l'idéologie, je ne dis pas la philosophie, parce qu'en fait, ça n'est pas une philosophie, ni un mouvement, ni c'est un ensemble d'idées, c'est une attitude qui consiste à penser que grâce à la technologie, et la science, bien entendu, qui l'accompagne, l'être humain va pouvoir dépasser sa nature et ses limites propres, notamment la première des limites, hein, qui est bien naturellement notre longévité courte. Je tiens quand même à dire que l'être humain est un des objets dans l'univers qui a une des plus longues durées de vie par rapport à sa taille. Mais bon, on en est quand même un peu insatisfait, malgré, c'est très rassurant de savoir ça. Mais effectivement, on est quand même assez insatisfait de ça, quand même. Donc, cette première limitation. Alors, pour éviter tout malentendu, le transhumanisme, ça n'est pas le surhomme nietzschéen, c'est encore moins quelque chose de raciste ou etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Hein, j'aime bien donner comme comparaison les super-héros de chez Marvel comme modèle du transhumaniste. C'est-à-dire, vous avez un gars comme le docteur Banner ou qui est un type tout à fait comme vous et moi, puis un jour il prend un produit par erreur dans la figure et il devient Hulk. Bon, sans vouloir devenir Hulk, c'est un peu le modèle, c'est-à-dire que ça nous concerne tous, c'est la façon dont nous, nous allons peut-être nous transformer dans l'avenir sous l'influence de la technologie, et bien entendu, il ne s'agit pas, du moins pas de manière doctrinale, maintenant il y a des transhumanistes, il y en a de toutes les tendances et de toutes les formations politiques, mais disons, il ne s'agit pas au centre d'une idéologie élitiste qui positionnerait l'existence d'un surhomme par rapport à des non-surhommes, voire à des sous-hommes. C'est pas du tout le sujet, hein. Le sujet, c'est bel et bien la technologie qui nous permet de dépasser nos limites. Alors, d'où elle vient cette idée ? À partir de quand on a commencé à se dire, grâce à la technologie, l'homme va pouvoir atteindre une nature supérieure ? Ben, c'est assez vieux quand même, puisque le premier livre de l'histoire humaine s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Raconte l'histoire d'un roi qui va rechercher une technologie, il va pas prier, hein, il va aussi essayer de prier, je crois, mais ça va pas marcher. Il va chercher une technologie, c'est-à-dire une potion qui va le rendre immortel. Et il trouve la potion, mais un serpent lui vole la potion et finalement ça ne marche pas. Autre livre qui fait mention de l'idée de technologie, c'est les Védas indiennes, qui parlent d'une drogue mystérieuse qui s'appelle le soma. On ne sait pas de quoi était constitué le soma, on ne sait pas si c'est une vraie drogue ou si c'est la métaphore d'une drogue, mais il y a un passage dans le Rig Veda où on dit « nous avons bu le soma, nous sommes devenus immortels, nous sommes devenus des dieux ». Si vous plongez sur la mythologie grecque, vous apercevez que les dieux de la mythologie ne sont pas très différents de nous, hein, sur le plan du caractère ou de la maturité émotionnelle ou intellectuelle, ils seraient même un petit peu en dessous, possèdent aussi des produits qui sont l'ambroisie, qui sont le nectar, qui leur garantissent l'éternelle jeunesse et l'immortalité. Alors je ne sais plus lequel garantit l'éternelle jeunesse et lequel garantit l'immortalité, mais je crois qu'il y a un personnage de la mythologie grecque qui a eu le produit de l'immortalité sans avoir celui de l'éternelle jeunesse et qui l'a beaucoup regretté par la suite. Maintenant, bon, tout ça, ce sont des légendes, etc., mais cette idée va commencer à être un petit peu formalisée dès le deuxième siècle de notre ère. Vous savez que le deuxième siècle de notre ère, aux alentours de l'Égypte, de la Syrie, de la Grèce, etc., a été une période extrêmement effervescente sur le plan religieux. Je dirais que c'est là que même le christianisme a pris forme. Bien sûr, le christianisme est un peu plus ancien que le deuxième siècle, mais disons que c'est à partir du deuxième siècle qu'on commence vraiment à avoir une formalisation du christianisme. Mais il y a aussi un ensemble d'idées, d'hérésies, de doctrines qui s'apparentaient à ce qu'on a appelé le néoplatonisme à l'époque et qui jouaient avec un certain nombre de concepts. Et il y avait notamment une doctrine qu'ils appelaient l'hermétisme, qui partait du principe que par la connaissance de certaines techniques, on peut arriver à la connaissance de Dieu. Hein, la formule, c'est l'épistémé, c'est-à-dire la connaissance mondaine, conduit à la gnosis, c'est-à-dire la connaissance divine. Et donc, il fallait apprendre des techniques, et ces techniques nous permettaient, selon les gens de l'époque, d'atteindre cet état de gnosis. Alors, les techniques de l'époque, bien sûr, n'étaient pas les mêmes que celles que vont utiliser aujourd'hui les transhumanistes. Il y avait en gros trois ensembles de techniques. Il y avait l'astrologie pour connaître son destin. Il y avait la magie pour modifier son destin tel qu'il était décrit par l'astrologie, et il y avait l'alchimie qui était un ensemble de potions, etc., qui nous permettait d'atteindre l'immortalité. Alors bien entendu, c'est des techniques qui ne sont pas extrêmement efficaces d'après ce qu'on sait aujourd'hui, mais regardez l'épistémologie, la philosophie de ces techniques. L'astrologie, c'est donc savoir quel est notre déterminisme. Aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui vont commander sur Internet une grosse portion de leur génome, de leur ADN, pour essayer de voir à quoi ressemble leur destin, entre guillemets, c'est-à-dire essentiellement leur santé, mais peut-être aussi leur personnalité, selon certains. Ça, c'est très débattu. La magie, ça n'existe pas trop, mais l'idée d'utiliser des techniques issues des sciences cognitives pour augmenter nos connaissances, voire nos capacités mentales, c'est quelque chose qui aujourd'hui est aussi régulièrement pratiqué. Et l'alchimie, c'est bien entendu l'ensemble, l'arsenal de tous les produits chimiques, et à cela on peut rajouter aussi les produits électroniques qui sont susceptibles de changer notre corps. Donc on est un petit peu dans la même idée. Et il y avait pas mal d'idées intéressantes dans Asclepius, cette idée de technologie qui peut nous permettre d'atteindre à l'état divin. Il y a par exemple un passage, alors donc, oui, je vous ai cité l'Asclepius, c'est un des principaux manuscrits hermétiques, et il y a un passage qui a frappé les hermétistes pendant des siècles et des siècles. C'est un passage où on parle des dieux égyptiens. Alors, il faut savoir que l'hermétisme est en fait une création grecque, mais qui déjà voyait l'Égypte, qui était déjà l'Égypte antique pour les Grecs, comme étant la source de toutes les sagesses. Donc, en fait, ce sont des textes pseudo-égyptiens. Des recherches récentes laissent à penser qu'il y aurait quand même des sources authentiquement égyptiennes dans l'hermétisme, mais bon, c'est une autre histoire. Et il y a ce passage dans ce livre qui s'appelle l'Asclepius, qui a traversé, qui est un des rares manuscrits hermétiques qui a traversé l'histoire de l'Occident au Moyen-Âge, etc., qui dit finalement, les Égyptiens ont créé leurs dieux. Ils ont créé des statues, ils ont fait venir les esprits des planètes à l'intérieur des statues, ils les ont incarnés, et c'est comme ça que les êtres humains ont créé des dieux. Et c'est un passage qui va avoir une grande influence sur toute la pensée, notamment à la Renaissance et au Moyen-Âge, et c'est probablement ce passage qui va donner naissance à des doctrines par la suite dans les trois religions monothéistes après la disparition du paganisme, comme par exemple la légende du golem dans le judaïsme. Vous connaissez sans doute cette légende comme quoi un rabbin très sage pouvait construire une structure en argile et grâce à des inscriptions kabbalistiques lui donner vie. Le golem, ça vient de c'est une légende qui est très liée à un texte qu'on dit que ce pré-kabbalistique s'appelle le Sefer Yetzirah et qui date aussi de ce deuxième siècle après Jésus-Christ à peu près. Il y a aussi dans l'islam une tradition alchimique qui dit celui qui a atteint la sainteté peut, à l'instar de Dieu, créer la vie humaine. Et en Occident, vous allez avoir l'histoire de l'alchimie où va y avoir aussi l'idée de la création de l'homoncule, c'est-à-dire un être artificiel créé par des méthodes alchimiques. Donc c'est une idée qui va beaucoup travailler les héritiers de l'hermétisme au Moyen-Âge et à la Renaissance, et surtout à la Renaissance, parce qu'au Moyen-Âge, il y a une espèce de disparition de ces doctrines, mais qui va aussi beaucoup les inquiéter, parce que quelque part, quand même, ça frise l'idolâtrie et le polythéisme, tout ça, hein, créer ses propres dieux. Mais ceci dit, il y a eu effectivement dès la Renaissance un intérêt pour l'Asclepius, et notamment quelqu'un qui s'est profondément intéressé à ce sujet, c'est Pic de la Mirandole. Hein, Pic de la Mirandole a écrit le manuel pour la dignité, le raison pour la dignité de l'être humain, c'est ça le titre original, hein, je crois, qui commence par une citation de l'Asclepius qui dit « Quelle chose merveilleuse qu'est l'homme !» Et ensuite, le texte de Pic de la Mirandole continue en disant « Finalement, ce que l'homme a d'extraordinaire, c'est qu'il est capable de se transformer. » C'est-à-dire qu'il est capable d'être ce qu'il veut. Ce que même les anges ne peuvent pas faire. C'est extrêmement intéressant parce qu'on découvre que l'humanisme aux origines, puisque ce texte, l'oraison Pic de la Mirandole est aux sources de l'humanisme, est en fait déjà un transhumanisme. Alors c'est déjà très intéressant. Et donc il va y avoir à la Renaissance cet intérêt qui va renaître pour l'hermétisme et cet intérêt qui va aussi faire renaître une idée qui est très importante, qui était très importante au IIe siècle, qui était celle des néoplatoniciens, qu'ils héritaient de Platon et de Pythagore, c'est l'idée d'un fondement mathématique à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près naturel de penser que les sciences s'expriment en termes d'équations. Mais au début de la Renaissance, c'était un acte de foi. Penser ça. Il n'y avait aucune preuve de ça. Et ça, c'est une idée qui a beaucoup couru dans les milieux hermétistes de la Renaissance. Et certains en ont été très frappés et très intéressés, notamment... très influencé par ces doctrines hermétiques et magiques, il y avait Giordano Bruno, qui fut brûlé, vous savez, par l'Église catholique, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais pas uniquement pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil, mais également pour pratique de la magie et de la sorcellerie. Donc Giordano Bruno a été très marqué par l'hermétisme. Johannes Kepler, qui était également astrologue, a été très marqué par l'hermétisme. Et quand Galilée dit « Dieu écrit le livre de la nature en forme de mathématiques », il reprend cette vieille idée néoplatonicienne. Et enfin, vous avez la naissance de la science avec Isaac Newton, qui était lui-même alchimiste. Hein. Vous savez que Isaac Newton a écrit beaucoup plus de livres sur d'interprétation de l'Apocalypse et sur l'alchimie que de traités mathématiques. Hein. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment là-dedans. Et donc c'est intéressant. Pour l'instant, on va laisser un peu tomber cette histoire d'Hermétine, mais c'est, rappelez-vous ça, aux origines de la science, il y a quand même un courant fortement influencé par cette idée, nous pouvons devenir divins par la technique et par la science. Elle est déjà présente et elle court jusqu'à Newton, et à partir de Newton, on va dire, elle se sépare un peu de cette idée, mais elle est présente, et à chaque fois qu'il y aura attrait pour la science, attrait pour la technologie, il y a des gens qui vont dire, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut effectivement atteindre un état qui dépasse nos limites. Alors maintenant, on va faire un saut de quelques siècles et on va arriver aux origines de ce qu'on appelle le transhumanisme actuel. D'ailleurs, d'où vient cette idée que par la technologie, nous pouvons effectivement devenir immortels, super intelligents, super costauds. Ça n'intéresse pas trop les transhumanistes, hein, ils s'en foutent complètement du côté costaud, mais effectivement, pour pouvoir dépasser ses limites. Dans les années 30-40, il commence à y avoir des penseurs, je dirais pas les scientifiques, mais des penseurs qui commencent à dire la technologie peut vraiment transformer les choses. Vous avez, par exemple, un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller, qui va avoir une grande influence sur tous les mouvements qu'on appelle futuristes américains. Buckminster Fuller, c'est l'inventeur de ce qu'on appelle le dôme géodésique. Vous en avez peut-être vu, c'est ces espèces de lieux en forme de dôme qui sont constitués de triangles. Hein, j'insiste sur le mot triangle, par exemple, vous avez la géode à la Villette, ça n'est pas un dôme géodésique parce que ce sont des carrés. Donc il est très important que ce soit des triangles, que ce soit un vrai dôme géodésique. Et Fuller disait, finalement, c'est par la technologie que nous allons changer les choses. Que l'humanité va évoluer. N'essayez pas d'apprendre la morale aux gens, de toute façon, ça ne marchera pas. N'essayez pas de les changer de l'intérieur. Changez leur environnement, changez leur architecture, changez leur urbanisme, et vous allez changer les comportements. Alors Fuller a commencé à écrire dans les années 30-40 ses idées, et à faire avoir des brevets et des inventions des années 30-40. Il y en a eu d'autres qui vont commencer à jouer avec des idées dans le même genre. C'est-à-dire que bon, vous avez dans les années un peu plus tard, vous avez un penseur qui s'appelle Gregory Bateson, par exemple, qui est un Anglais installé aux États-Unis, qui va faire la fusion entre les sciences humaines et la cybernétique naissante, et qui va dire les systèmes mentaux, quels qu'ils soient, que ce soit une forêt de séquoia, un robot ou un être humain, fonctionnent selon une série de lois qui sont analogues. Bateson va être très influent sur ces milieux futuristes. C'est assez ironique parce que lui-même n'était pas un futuriste du tout, n'était pas du tout un fan de la technologie. Bateson détestait, en fait, tout ce qui était technologie. Il pensait que c'était quelque chose de primaire, de brutal, etc. Mais il va être très influent dans ce domaine. Vous avez aussi quelqu'un comme Marshall McLuhan qui va écrire plus tard, dans les années 50-60, et qui va dire les médias, c'est-à-dire la radio, la télévision, l'écriture, changent la structure de notre cerveau. Alors, tout le monde connaît Marshall McLuhan pour quelques formules bien senties, le médium, c'est le message, nous vivons dans le village global, etc. Mais son idée principale, c'est ça, c'est la culture, c'est le changement de la structure neurale de notre cerveau sous l'influence des médias. Donc vous avez toutes ces idées qui commencent à germer, et surtout, vous avez quelque chose qui commence à pervertir la jeunesse américaine, c'est la science-fiction. Hein, c'est quelque chose d'absolument central dans toute cette histoire, c'est-à-dire que la science-fiction va être la littérature mythologique de toutes ces idées que sont le transhumanisme. Presque tous les transhumanistes, je dirais même tous, sont des lecteurs de science-fiction. Hein, c'est quelque chose qui... on m'informe que Nick Bostrom, un des plus célèbres transhumanistes, trouve que c'est une perte de temps. Bon, lui trouve que c'est une perte de temps. Mais Anders Sandberg, qui travaillait avec lui, lit de la science-fiction. Donc, vous avez ces idées-là qui commencent à apparaître. Et dans les années, à la fin des années 50, il y a quelque chose qui va arriver sur le marché, si j'ose dire. C'est un produit chimique qui est censé nous permettre d'atteindre des états de divinité. Remarquez toujours le lien avec le mysticisme et la religion. C'est pour ça que je vous ai fait cette intro sur l'hermétisme, etc. Il y a toujours ce fond un petit peu religieux de dépassement de la conscience, etc. Et là, on va avoir un produit chimique qui va fasciner beaucoup de monde, qui va s'appeler le LSD. Alors, le LSD va être testé un petit peu partout aux États-Unis, notamment d'ailleurs dans le laboratoire où travaille Gregory Benson, hein, qui s'appelle le Mental Research Institute à Palo Alto, où ils vont tester comme ça du LSD en série. Et ça va commencer, les gens vont commencer à se passionner pour le sujet, et notamment, vous allez avoir quelqu'un à l'époque qui, en 1960, va prendre non pas du LSD, mais des champignons hallucinogènes à Mexico, et qui va en être fort ému, qui s'appelle Timothy Leary, qui va lancer ce qu'on va appeler le mouvement hippie, la contre-culture, etc. C'est un professeur de Harvard. Alors, encore une fois, c'est intéressant de noter son itinéraire. C'est un prof de psychologie de Harvard qui n'est pas du tout, au début, quelqu'un, je dirais, dans le mysticisme ou dans le New Age. Hein. C'est-à-dire que la psychologie de Timothy Leary à l'époque, ça s'appelle le diagnostic interpersonnel de la personnalité. C'est une tentative de mesurer les comportements au sein d'un groupe, etc., avec vraiment des chiffres. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, il n'est pas du tout lecteur de Jung, de Freud, de choses comme ça. Il considère ça comme complètement infantile, il veut une psychologie très carrée, et voilà qu'il prend des champignons et qu'il développe complètement, et qu'il se met à déclarer « bon, j'ai rencontré Dieu », etc. Mais, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée qui commence à apparaître que, finalement, avec des produits chimiques, avec de la technologie, on peut changer quelque chose à la nature humaine. Alors, c'est un peu étonnant, parce que les hippies, on les imagine très anti-technologiques, etc. Mais il y a en fait tout un courant, un intercurrent dans le mouvement psychédélique, qui est très, très scientifique. Vous avez quelqu'un comme John Lilly, par exemple. John Lilly, c'est un des pionniers de la cybernétique. C'est un type qui a inventé pas mal de choses, notamment des micro-électrodes à planter dans le cerveau animal sans les faire souffrir, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment un neurologue. Et qui lui aussi va rentrer dans la recherche psychédélique, qui va commencer à apprendre, il va inventer une nouvelle technique qui consiste à s'isoler dans un bain d'eau salée, ce qui fait qu'il n'est plus en contact avec rien, ce qu'on appelle un caisson d'isolation. Peut-être certains d'entre vous ont testé ça, parce qu'il y a encore aujourd'hui des instituts de beauté ou de relaxation qui ont des caissons d'isolation, etc. Mais Johnny ne se contente pas de s'isoler dans un caisson, il y reste 6 heures, il prend du LSD dans le caisson, après il prend de la kétamine dans le caisson, et il commence à halluciner de plus en plus, naturellement. Et il a souvent des visions très très futuristes des choses. Et Lilly va écrire un livre qui indique bien les choses, ça s'appelle « Programmer et métaprogrammer le bio-ordinateur humain ». C'est-à-dire que voilà un des premiers écrits qui dit finalement l'homme, la machine, l'ordinateur, etc., fonctionne un peu sur le même principe, et on peut reprogrammer le cerveau, on peut recréer une personnalité. Alors John Lilly s'imaginait, il disait qu'il programmait ses croyances, il s'enfermait dans le caisson partant du principe qu'il était un voyageur du temps ou qu'il était un extraterrestre, et il vivait l'expérience d'un voyageur du temps ou d'un extraterrestre, par exemple. John Lilly a travaillé avec Gregory Benson, notamment. John Lilly est aussi celui qui a travaillé le premier sur le langage des dauphins, ou sur le pseudo-langage des dauphins. Il a beaucoup travaillé là-dessus, et Benson était venu travailler avec Lilly sur les dauphins, et finalement Benson est parti du laboratoire de Lilly parce qu'il en avait assez de voir des gens de la CIA qui étaient tout autour et qui n'arrêtaient pas d'observer ce que faisait John Lilly. Et là vous voyez aussi quelque chose qui va être très récurrent, cette espèce de mélange de contre-culture, d'espionnage, de militarisme, de commerce, etc., qui commence à se pointer à l'intérieur de l'histoire de John Lilly. Bon, je vous ai laissé, j'ai parlé de Timothy Leary quelques minutes. Timothy Leary, pendant les années 60, il n'est pas du tout dans la science. Il a laissé tomber la psychologie, il a laissé tomber les chiffres, il est en robe blanche, il a de l'encens, il a des fleurs dans les cheveux. Bon. Ce qui se passe ensuite dans les années 70, c'est qu'il est mis en prison pour la possession de 2 joints. Il est condamné à 30 ans de prison. Quand il arrive donc en prison, on lui fait remplir un questionnaire pour savoir exactement qui il est. Ce questionnaire, c'est lui qui l'a écrit dans les années 60, avant de changer de... Donc il écrit comme quoi il est totalement inoffensif, passif et sans grand danger. Il s'évade, fuit et repris en prison, etc. Mais surtout, ce qui va se passer pendant cette période, c'est que le côté hindouiste, etc., mystique de Timothy Reeve va disparaître et laisser la place à... un futurisme extrême, c'est-à-dire il dit finalement, bon, je me suis planté, l'hindouisme, le mysticisme, tout ça, ça va pas loin, ça bloque, ce qu'il faut maintenant, ce qu'il faut penser, c'est l'accès à de nouvelles formes de mutation de l'être humain, et il met au point une espèce de mythologie qu'il appelle la théorie des 8 circuits, où il imagine que l'être humain va passer par plusieurs phases, un peu comme une chrysalide et un papillon, sous l'influence de la technologie. Quand finalement il sort de prison, Timothy Leary, parce qu'il est sorti, certains disent qu'il est sorti parce qu'il a redonné certains de ses amis, et c'est apparemment possible. Quand il sort de prison, il rencontre un groupe de deux jeunes gens qui ne sont plus du tout des hippies, qui sont des gens qui sont très investis dans la conquête de l'espace privé. Hein, c'est l'époque où la NASA arrête d'envoyer des fusées vers la Lune, etc. Et certains veulent reprendre le flambeau de cette conquête de l'espace privé. Et c'est ce qu'on appelle la L5 Society. Ce sont des gens qui veulent créer des cités spatiales en haute orbite où les gens pourront vivre dans l'espace. Et c'est dans cette espèce de melting pot qu'on va commencer à parler, effectivement, de plus en plus d'immortalité, d'ordinateur. C'est un milieu qui va être très mêlé à un autre mouvement qui s'appelle le mouvement cryonique, qui dit qu'il faut congeler les gens pour qu'ils les ressuscitent un jour où la science le permettra. Le mouvement cryonique qui, pour le meilleur et pour le pire, est fortement lié au transhumanisme, ce qui est une chose que personnellement je regrette, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous avez donc cette espèce de mouvement qui va se former et qui petit à petit, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que cette espèce de milieu qui est très branché à la fois sur la science-fiction mais aussi sur le mysticisme, sur l'occulte, parce que bien sûr tous ces gens qui sont issus du monde psychédélique pratiquent la méditation, voire la sorcellerie, etc. Mais en même temps avec un goût pour la rationalité extrême, va donner naissance petit à petit en Californie à ce mouvement qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. C'est-à-dire que c'est là, c'est dans cette société qui s'appelle la Alpha Society, qu'on va voir des petits jeunes qui vont débouler, qui vont devenir très connus par la suite. Vous allez avoir un certain Roy Walford qui va être ensuite le promoteur de la restriction calorique, une des techniques d'extension de la durée de vie qui est les plus connues, qui est une des plus connues. Donc Roy Walford était dans la Alpha Society. Vous allez avoir Eric Drexler qui est l'inventeur du concept de nanotechnologie. Il n'a pas vraiment inventé le concept. Richard Feynman l'avait fait avant lui, mais c'est lui qui va populariser le terme. Il est dans la L5 Society. Vous allez avoir des gens comme Chris Langton qui va créer ce qu'on appelle le champ de la vie artificielle. Lui aussi est membre de la L5 Society. Donc vous avez cette espèce de melting pot qui va autour de Leary, mais où finalement Leary joue plus un rôle de catalyseur, hein, que lui-même n'est finalement un rôle. C'est pas un rôle créateur, c'est plutôt un rôle de catalyseur et de médiatiseur. Qui va se créer dans les années 70 et dans les années 80-90, donc vont se créer les premières communautés transhumanistes, communautés qui vont être au départ très très marginales. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 80-90, les transhumanistes ne sont pas du tout pris au sérieux, considérés comme une bande de braques de Californiens de plus, hein, coincés entre les Raéliens, les scientologues, etc. Mais petit à petit, il va y avoir une espèce de... Ces gens qui vont travailler beaucoup sur les ordinateurs, etc., vont de plus en plus convaincre autour d'eux qu'il se passe quelque chose. Et parallèlement, parce que bien sûr, je vous donne l'impression d'une histoire linéaire, une histoire n'est pas linéaire, parallèlement, il y a des gens qui travaillent en robotique, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, etc., qui aussi commencent à à élaborer des idées dites transhumanistes. Je dirais que le seul point commun entre ces mouvements dits psychédéliques et ces mouvements très scientifiques, c'est qu'ils sont tous des gros lecteurs de science-fiction. Et donc, petit à petit, bon, ce qui est intéressant, donc les thèmes du transhumanisme tels qu'ils vont se développer ensuite dans les années 80-90, bon, en gros, bon, moi je les divise en trois grandes parties, hein. La première grande partie, c'est donc l'accession à l'immortalité par tout un ensemble de technologies. Ensuite, il y a l'accession à la super-intelligence, c'est-à-dire effectivement dépasser, et là on retrouve la gnosis un petit peu, c'est-à-dire l'idée que l'être humain finalement est très limité dans son accès aux connaissances et qu'il faut qu'il dépasse son intelligence actuelle. Alors il y a plusieurs écoles, hein, chez les transhumanistes. Il y a ceux qui vont dire, bon, ben, on va faire travailler le cerveau humain, on va modifier le cerveau humain. Il y a ceux qui disent, on va pas le modifier, mais on va le connecter, pour créer des intelligences collectives de type Wikipédia plus, qui vont ainsi devenir de plus en plus intelligentes. Et il y a ceux qui disent, de toute façon, le cerveau humain, il est foutu. On va créer une intelligence artificielle qui sera beaucoup plus intelligente que nous et qui nous emmènera dans un paradis digital ensuite, où on n'aura plus qu'à se croiser les pouces. Donc en gros, vous avez toutes ces idées, c'est la super intelligence. Et vous avez un autre ensemble d'idées qui est moins bien connu, mais qui à mon avis est très important, justement toujours ce côté un peu mystique et tout, c'est l'idée finalement que l'être humain n'est pas simplement une créature terrestre, c'est une créature spatiale, une créature cosmique finalement, et l'idée de conquérir l'espace, voire de changer la structure même de l'espace et du temps, hein, pour certains. Vous avez un astrophysicien qui s'appelle Frank Tipler, par exemple, qui imagine à la fin des temps que l'univers va devenir une super intelligence qu'il faudra bien appeler Dieu. D'ailleurs, je crois que Tipler est chrétien, est profondément chrétien. Alors, je crois qu'il pense réellement que le Dieu de la Bible est une super intelligence située dans un lointain futur qui intervient sur son propre passé. Donc, vous voyez le genre de spéculation qui se livre à ce niveau-là. Et je pense que c'est une idée qui est importante. Donc, je regarde l'heure. Hein. Donc, effectivement, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelque chose d'aussi, je dirais au début, aussi bizarre, aussi marginal, aussi, etc., est devenu aujourd'hui un thème qui est très, très à la mode. Hein. C'est-à-dire que, bon, on ne cesse de dire que Google, par exemple, a créé la Singularity University, qui serait une espèce de think tank transhumaniste, que Ray Kurzweil, qui est un inventeur de synthétiseurs essentiellement et de différents objets technologiques, qui a été engagé par Google, serait le grand promoteur du transhumanisme, etc. Et c'est une idée qui devient petit à petit, je dirais, populaire, pas au sens qu'elle est tellement appréciée, parce qu'elle suscite plutôt de la frayeur, souvent, mais effectivement qui devient un sujet de débat. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a, je peux vous garantir qu'il y a 7-8 ans, personne ne parlait de transhumanisme. Hein. C'était pas du tout le sujet, c'était vraiment 2-3 listes de discussion sur Internet, et puis c'est tout. Alors donc, effectivement, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec le transhumanisme? Quelles sont les idées transhumanistes et qu'est-ce qu'il faut voir? J'ai dit au début que je ne pensais pas que c'était un mouvement. Je pense qu'effectivement, bon, si je devais donner une définition du transhumanisme, je dirais que c'est la branche extrême des geeks. Hein, c'est-à-dire, vous connaissez tous des geeks, et ben vous les poussez au maximum, vous poussez toutes les idées geeks au maximum, et vous avez le transhumanisme. Ce n'est pas forcément un mouvement. Bon, il y a des associations, il y a des groupes, etc. Mais ces groupes doivent faire 500 000 personnes dans le meilleur des cas. Je ne parle pas des Français qui doivent plutôt être de l'ordre de 50, je pense. Donc, il y a des clubs de bridge qui sont quand même beaucoup plus puissants. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... Mais effectivement, ce sont des idées qui traînent dans tous ces milieux de la haute technologie et tout, et qui ont réellement un impact sur la conscience des gens et sur la façon dont les gens travaillent les technologies. Je vous donne un exemple de la façon dont des idées très transhumanistes deviennent des choses que vous voyez chez vous presque quotidiennement, enfin pas encore, mais presque quotidiennement d'ici un an ou deux. L'inventeur de la nanotechnologie, Rick Drexler, imaginait qu'on allait pouvoir créer des objets qu'il appelait des assembleurs universels et qu'il allait pouvoir assembler des atomes pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce serait une espèce de micro-onde, et avec ce micro-onde, vous appuyez sur un bouton, et hop, vous créez un stack haché, une voiture, ce que vous voulez. De toute façon, parce qu'il prend les... Bon. Et un assembleur universel, ça a une capacité, c'est de créer d'autres assembleurs. Donc, Drexler imaginait une espèce d'état de richesse comme ça, où tous les assembleurs seraient multipliés, où tout le monde pourrait créer ce qu'il veut. Il y avait une petite inquiétude, c'est qu'est-ce qui se passe si on oublie d'appuyer sur l'interrupteur off et que les assembleurs continuent à créer des assembleurs à l'infini? Ça serait la fin de l'humanité, c'est ce qu'on appelle la gelée grise. C'est le cauchemar de la nanotechnologie, c'est-à-dire on croule sous les assembleurs et on meurt étouffé par les assembleurs. Idée folle. Bon. Maintenant, vous avez tous entendu parler des imprimantes 3D. Certains d'entre vous travaillent avec. Eh bien, il y a aujourd'hui une imprimante 3D, pas chère d'ailleurs, qui s'appelle la RedRap, qui est spécialement conçue pour imprimer les composants d'une imprimante 3D. Autrement dit, l'idée apparemment délirante de Drexler, parce que ces gens-là ont lu Drexler, bien évidemment, et ils ont repris le concept. Alors évidemment, c'est beaucoup plus modeste, hein, c'est des imprimantes 3D, mais ils ont ce concept de machine autoréplicatrice. Vous avez des choses, par exemple, dont on parlait sur les listes de discussion transhumanistes il y a 15 ans, qui aujourd'hui font la une des journaux. Bitcoin, par exemple. Ils imaginaient déjà des systèmes décentralisés de monnaie. Bon, bah, ça, aujourd'hui, vous avez, dès qu'il y a une faillite Bitcoin, c'est dans le Figaro, c'est dans le Monde, c'est partout, tout le monde en parle, etc. Donc, effectivement, vous avez toutes ces idées pénètrent comme ça dans la conscience quotidienne. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va créer des oppositions? Est-ce que les gens sont pour? Est-ce que les gens sont contre? Moi, mon impression, maintenant, c'est... ça peut bien sûr être débattu, c'est qu'on n'en est plus là. C'est-à-dire que le transhumanisme, comme je disais au début, il est partout et on est dedans jusqu'au cou, de toute façon. Et ce qui va se passer demain, va se passer demain pour nous tous. Et sur ce point, les transhumanistes ne sont pas forcément les plus en avance. Par exemple, les transhumanistes sont encore très obsédés par l'idée du robot, de la machine et de l'hybridation homme-machine. Or, là où il se passe le plus de choses aujourd'hui, c'est dans le domaine de la biologie synthétique, par exemple. Le domaine de la biologie synthétique, c'est le travail sur le vivant. Il est en train de se passer des choses absolument extraordinaires dans ce domaine-là, et même les transhumanistes, qui sont souvent des informaticiens, ne connaissent pas du tout le sujet. Hein, donc, mais on va tous tomber là-dedans. Maintenant, la question ne va pas être une opposition entre les pros et les anti-transhumanistes, parce que, je veux dire, on vit tous transhumanistes, et je dirais que le transhumanisme, il a gagné avec Newton. Il a gagné au XVIIIe siècle, comme quand je vous faisais l'histoire de l'hermétisme, etc., du jour où quelqu'un a dit « la science peut avancer de manière infinie », ben, on est obligé de penser à l'immortalité, au dépassement de l'humanité, etc. C'est intrinsèque, c'est dans l'ADN de la science. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est des conflits entre transhumanistes, et je vous dis, on est tous transhumanistes, même si on ne le sait pas, sur comment on va faire. Et là, il y a des conflits qui, pour l'instant, n'apparaissent pas, parce que tout le monde est un petit peu dans une question, genre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Alors, en fait, de vraies questions se posent, c'est-à-dire, bon, ben, de toute façon, on va tous se modifier, l'environnement va être modifié, mais vous voulez que ça se passe comment? Alors, je vais vous donner deux ou trois exemples de conflits au sein du transhumanisme, pour vous dire qu'effectivement, c'est loin, très très loin d'être quelque chose d'unitaire. La première question qu'on se pose, que tout le monde se pose avec ces questions sur la technologie transhumaniste, c'est est-ce que oui ou non, ça va faire une division entre riches et pauvres? C'est la grande angoisse que tout le monde a. Les réponses politiques des transhumanistes sur ce point sont très divergentes. Vous avez beaucoup d'anarcho-capitalistes qui vont vous dire « il faut laisser le marché décider, de toute façon c'est la meilleure façon d'être démocrate ». Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les libertariens, hein, le mouvement libertarien. Il y a une phrase qui dit « combien faut-il de libertariens pour changer une ampoule ?» Aucun, le marché y pourvoira. C'est un peu cette hypothèse. Donc il y a beaucoup de libertariens transhumanistes, mais il y a aussi des transhumanistes de gauche, des transhumanistes d'extrême gauche, etc. Et il y a des questions qui sont très présentes aujourd'hui. Et je trouve que les transhumanistes sur ce point, très souvent, et moi c'est le reproche que je leur fais, c'est qu'il y a déjà des questions qui se posent aujourd'hui sur lesquelles il faudrait qu'il y ait des positions et sur lesquelles ils sont un petit peu silencieux. Je vais donner un exemple clair, c'est celui de la propriété intellectuelle. Vous ne voulez pas qu'il y ait des riches et des pauvres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Certains Alors, je crois que Kurzweil est donc considéré par la presse comme le pape du transhumanisme, ce qu'il n'est pas, je tiens à le préciser, serait par exemple pour l'extension des brevets. C'est-à-dire, en fait, il faudrait que les sociétés commerciales gardent plus longtemps les brevets pour pouvoir justement faire des bénéfices dessus et donc en profiter à tous. Je crois que Kurzweil est pour, mais je n'ai pas lu le texte de Kurzweil défendant ça. Hein, c'est donc peut-être pas vrai. Et vous avez en face des gens qui sont les adeptes du libre et de l'open science, qui disent qu'il faut supprimer effectivement toute la propriété intellectuelle de la science parce que tout est à tout le monde. Et si on veut qu'il n'y ait pas de différence entre pauvres et riches, il faut supprimer cet aspect des brevets. C'est un conflit qui est réel. C'est un conflit qui a même eu son premier mort l'année dernière. Hein. C'est-à-dire qu'un hacker qui s'appelait Aaron Schwartz s'est suicidé parce que le MIT le poursuivait parce qu'il avait mis en ligne des tas d'articles scientifiques qui étaient censés être payants. Il était tellement persécuté qu'il s'est suicidé. C'est un vrai conflit, et c'est vrai que sur ce point, les communautés transhumanistes qui sont, je dirais, un petit peu obsédées par une espèce de futur abstrait, ne rentrent pas vraiment dedans. Autre conflit qui est intervenu au sein du mouvement transhumaniste, c'est le problème de la neurodiversité. Alors, qu'est-ce que la neurodiversité ? C'est l'idée que certaines caractéristiques mentales que nous considérons comme des handicaps, voire des maladies, seraient en fait des identités neurologiques. Et c'est un mouvement qui a été lancé par beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire l'autisme de haut niveau. Il faut savoir que dans les milieux transhumanistes, il y a une forte proportion de gens qui ont le syndrome d'Asperger. Il y a aussi une forte proportion de gens qui sont transsexuels. Hein, ce sont des mouvements qui attirent bien naturellement, des gens qui se sentent différents. Mais le problème, c'est que le transhumanisme est très ambigu là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que la technologie va guérir l'autisme, ou est-ce qu'au contraire, la technologie doit permettre aux autistes de se développer en tant qu'autistes ? Alors, par exemple, il y a eu quelqu'un qui a été membre du bureau directorial de la World Transhumanist Association, qui s'appelait Anne Corwin, qui était une femme atteinte du syndrome d'Asperger, et qui finalement a claqué la porte du mouvement en disant... Ils se sont des, alors le mot anglais c'est ableistes, c'est-à-dire ce sont des gens pour devenir capable, devenir able, c'est-à-dire en fait ils niaient son identité d'autiste. Donc vous avez effectivement là des questions qui se posent, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire transformer l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire l'augmenter, est-ce que ça veut dire effectivement que c'est un espèce de modèle de la santé, de l'homme sain, etc., qui doit être revendiqué, ou est-ce qu'au contraire, comme beaucoup de transhumanistes le sont déjà, des Asperger, des autistes, des déficitaires de l'attention, des transsexuels, etc., revendiquent leur identité en tant que telle. Bon, ça, c'est pas encore un conflit, mais ça va le devenir. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des questions autour de ça. Donc, on voit qu'effectivement, bon, ce qui va se passer demain, à mon avis, c'est que ça va être effectivement de plus en plus, on va tous être transhumanistes, qu'on le veuille ou pas, parce que la question de l'immortalité, c'est un petit peu pareil. Souvent, la question, on dit aux gens, voulez-vous devenir immortel ? Oh non, ça serait terrible. Bon, est-ce que vous voulez prendre ce médicament pour vous enlever ce petit problème que vous avez à cause de votre vieillissement ? Ah bah oui, évidemment. Et bien entendu, les gens ne vont pas devenir immortels. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver avec des cordes et puis une odeur de soufre et qui va dire... Tu prends la pilule rouge, t'es immortel. Tu prends la pilule bleue, t'es pas immortel. Vous allez aller chez votre médecin, on va vous dire « Ah ben oui, à votre âge, vous avez ça, mais on vient de découvrir un truc, prenez-le. Et c'est comme ça que ça va se passer. On découvrira qu'on vit 100, 200, etc., 300 ans, peut-être, si ça marche. Hein. » Donc c'est pas quelque chose qui va rentrer, je dirais, directement qui va être une question de choix philosophique. Ça va se faire inconsciemment. Par contre, ce qui va déclencher effectivement des problèmes, c'est l'ensemble de toutes les mutations qui vont pouvoir se faire et qui ne vont pas aller forcément dans un sens qui plaît à tout le monde. Je parlais tout à l'heure de biologie synthétique. Demain, et quand je dis demain, c'est vraiment dans 3-4 ans, on va pouvoir commencer à créer des premières bactéries synthétiques qui vont être lâchées dans la nature. Certaines seront positives, certaines seront négatives, mais certaines vont plaire à certains et d'autres non. Dans quel écosystème voulez-vous vivre ? Il y a des questions aussi qui se posent sur l'accès aux ressources, sur le climat, etc. C'est-à-dire, par exemple, une grande question qui, à mon avis, va être la question centrale des 10 prochaines années, c'est est-ce que, oui ou non, il faut manipuler le climat pour éviter le réchauffement climatique ? Bon, c'est une question qui est extrêmement délicate, et c'est une question sur laquelle il peut y avoir des guerres. On n'est plus du tout dans le débat, je dirais, aimable, où on joue à fleuret moucheté en buvant du champagne. C'est, les gens vont se larguer des bombes dans ce débat-là. Et je trouve, et ça c'est un peu mon regret sur les transhumanistes, qu'ils ne sont pas du tout présents sur ces débats. C'est-à-dire que finalement, il y a un thème qui s'est un petit peu centralisé sur l'hybridation machine et sur le rôle de l'intelligence artificielle, qui fait que ces débats technologiques qui sont extrêmement forts, finalement, le mouvement transhumaniste, à mon avis, tu me diras ce que tu en penses, n'est plus le lieu où ces débats ont lieu. Et ça, c'est un petit peu gênant. Voilà un petit peu ce que je... Oui, je pense que c'est bon. ce que je vois. Donc, je laisse la parole à... Gabriel.
Merci. Bon, merci beaucoup Rémi. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Pour moi, ce n'est pas la première fois. Je n'ai pas cette incomparable capacité d'improvisation comme un virtuose, hein, qui connaît sa partition, qui ensuite arrive à l'interpréter sans la regarder. Donc voilà, j'ai ma partition, mais bon. Merci surtout à Rémi d'avoir contribué à ce qui me semble être quand même un travail important quand on parle de transhumanisme, c'est-à-dire de pluraliser la question. Moi, j'aime bien encore parler de mouvement, mais enfin, c'est plutôt anecdotique. Donc, parler de transhumanistes au pluriel, et surtout de parler de transhumanistes comme des personnes, plutôt que comme des espèces d'idées un peu dans le vague. C'est-à-dire que c'est porté par des gens, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec d'autres, et c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aime même dire parfois que le transhumanisme n'existe pas.
C'est pas faux.
Voilà. Et pourquoi dire ça ? Parce que ça me semble vraiment intéressant d'aller regarder, du coup, et c'est ce que tu fais très bien, d'aller regarder les débats internes au mouvement, les différentes valorisations des technologies qu'on peut y trouver, les désirs, les expériences, les conflits de valeurs, qui parfois peuvent être très forts, plutôt que de voir les choses en termes, justement, tu l'as dit, d'affrontements entre pour, contre, bien, mal. C'est un cadrage binaire qui, d'abord, pousse, disons, l'analyste ou la personne qui réfléchit là-dessus à se positionner d'emblée, avant même d'être allé voir de quoi il s'agit. Cadrage qui est non seulement pauvre sur le plan heuristique, mais aussi, au sens très précis d'Isabelle Stengers, insultant pour les transhumanistes eux-mêmes. Pourquoi insultant ? Parce que contraire à ce qui compte le plus pour eux, ce qui leur importe, et ce qui importe en l'occurrence, c'est la pensée critique, très souvent revendiquée par les militants transhumanistes. Pensée critique dont on peut évidemment évaluer la portée, la structure, la cohérence interne, à condition de témoigner ce qui est probablement la principale, disons, vertu philosophique, qui est la charité interprétative. Nos amis de l'association française transhumaniste Technoprog, puisque effectivement, c'est pas toujours officiel, mais je suis également membre de cette association en tant que chercheur critique. Et ces gens, je les fréquente depuis 4-5 ans, et je retrouve beaucoup de choses que tu as dit. Enfin, c'est pas un hasard, mais je retrouve aussi quelque chose dont tu as parlé, c'est pas mal autour de ça que je vais intervenir, c'est-à-dire que le fait qu'il y a une forte proportion de transhumanistes aussi qui ne sont ni scientifiques, ni ingénieurs, ni de pratique, ni de formation. Alors, la question du coup, c'est de dire, c'est qui ces gens et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors, plutôt que de les voir comme des idéologues qui chercheraient à propager un message préétabli, je trouve plus intéressant d'écouter d'abord les transhumanistes, de voir ce qu'ils ont à dire et comment ils le disent. Et du coup, de les voir comme des militants au sens proposé par Michel Vanni. Je me fais un plaisir de le citer, il n'est pas là ce soir, donc il ne peut pas être timide. Michel Vanni, dans son livre sur l'adresse du politique, qui parle de militants au sens de justement pas des gens qui propagent un programme comme un programme politique, mais ceux qui cherchent à répondre à des questions qui n'ont pas encore été posées ou qui ont été, d'après eux, mal posées. Cette perspective, elle ouvre un champ de questionnement un peu plus fin et surtout elle injecte un peu d'hésitation, une fragilité intrinsèque au discours transhumaniste. Et cette fragilité, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'elle incite donc à varier les focales et à réfléchir sur ce qui est au centre et en même temps souvent le grand impensé du discours transhumaniste, qui est les objets techniques. Pour les transhumanistes dont je parle. Et penser les objets techniques, c'est un des grands axes de la saison en cours du groupe Vaudois d'ailleurs. Réfléchir sur les objets techniques, c'est d'abord les voir dans des relations et non pas les essentialiser comme des choses un peu mystérieuses et peut-être dangereuses. On en a parlé beaucoup lors de la séance sur le cyborg. C'était l'avant-dernière, je crois, le cyborg et l'humanisme. Parler de la manière dont on peut considérer l'humain, peut-être même depuis ses origines, comme intrinsèquement le produit de relations avec des techniques plus ou moins élaborées. Et dire produit de relations pousse à se questionner sur comment ces relations sont construites et comment éventuellement on peut les modifier, sur, comme dirait Peter Sloterdijk, le mode de production de l'humain, par lui-même. Plus précisément, parler avec les transhumanistes, écouter ce qu'ils ont à dire, pousse à déplacer un peu les questions qu'ils se posent eux-mêmes. Donc pour rentrer véritablement dans une discussion qui est une forme de critique. L'association française transhumaniste se revendique par exemple du technoprogressisme, c'est-à-dire qu'elle produit une réflexion de plus en plus fournie d'ailleurs depuis une année ou deux, sur les questions éthiques, sociales et politiques que posent les technologies émergentes, donc qui déploient des efforts considérables pour tenter de favoriser un débat large et équilibré sur ces questions, ce qui est une tâche tout à fait difficile en France. Récemment, dans un entretien sur Skype, avec webcam, que j'avais avec un des membres les plus actifs de cette association, je lui ai dit « Mais c'est quoi les objets techniques relevant du transhumanisme que tu utilises, toi, particulièrement ?» Et sans hésiter, il a fait pivoter son ordinateur sur le côté, et là, j'ai eu une vue plein cadre sur sa cafetière. Il n'y a rien de ridicule là-dedans. Et d'ailleurs, de nombreux auteurs soulignent qu'en termes d'augmentation cognitive, notamment, cognitive enhancement, etc., malgré toutes les annonces industrielles et médiatiques, la substance la plus efficace, de manière prouvée, éprouvée, et disons sur le long terme, ça reste la caféine. J'en sais quelque chose. Alors, dans cette déclaration là, du transhumanisme dont je vous parle, il rejoint la plupart une bonne partie, en tout cas, des militants transhumanistes, c'est difficile à évaluer, mais beaucoup que j'ai rencontrés sont dans ce cas-là, qui sont essentiellement, disons, théoriciens, en tout cas qui s'intéressent aux aspects théoriques, et ne sont ni scientifiques, ni ingénieurs, ni industriels. Et on pourrait beaucoup parler aussi de à quel point beaucoup de scientifiques, ou d'ingénieurs, ou d'industriels refusent, se méfient énormément du transhumanisme, et ne veulent surtout pas être affiliés ou amalgamés avec ça. Plus spécifiquement, la plupart des transhumanistes ne sont pas des expérimentateurs, c'est même souvent pas des testeurs. Je me souviens de Natacha Vitamore, donc, qui est la présidente de l'association mondiale, vocation mondiale transhumaniste, Humanity Plus. Je l'invitais à décrire ses projets. Qu'est-ce que tu fais ? Et sa réponse est un peu un concentré de ce que j'essaie de vous raconter là ce soir. Elle m'a dit, on ne peut pas juste penser au futur lointain, il faut agir maintenant, il faut commencer dès maintenant. Et ensuite, elle me décrit son propre travail. Elle dit qu'il consiste à designing future body prototypes. Ça veut dire qu'elle a fait une sorte de lapsus. Elle dit, je dessine les êtres humains du futur. Donc c'est dans cette espèce d'écart entre espoir et pratique, relative aux technologies qu'on appelle relevant du transhumanisme, que j'essaie de maintenir. Et là, il y a un personnage que je trouve très intéressant, dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Left Anonyme. Alors, évidemment, c'est un pseudo. C'est une jeune femme, frêle, 1m50, biohacker. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et en fait, assez peu présente, sauf sur forums et blogs, disons, spécialisés, Il y a une vidéo non autorisée, mais que vous pouvez voir sur YouTube, c'est la seule que j'ai pu trouver. Et puis 2-3 textes qu'on trouve aussi sur Internet et qui sont, à mon avis, précieux pour réfléchir sur le transhumanisme. Alors, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que, contrairement à beaucoup de biohackers, Left Anonyme se dit et s'assume comme transhumaniste. Elle s'inscrit vraiment dans ce mouvement, cette nébuleuse. Et dans une discussion, dans une opposition, en fait, non pas frontale, mais plutôt complémentaire avec les grands auteurs classiques tels que Kurzweil ou Nick Bostrom, dont on a pu parler. Dans le fond, elle partage l'idée générale du transhumanisme, qu'on peut vous résumer comme ça, j'ai fait une sorte de compilation de la déclaration transhumaniste signée par les grands auteurs qu'on appelle classiques, en fait, en 2002, Max Moore, Anderson Berg, David Pearce, etc. Donc ça va comme ça, c'est considérant que, c'est les premiers mots, l'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. L'avenir de l'humanité va être. Les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leur capacité physique, mentale, cognitive ou émotionnelle. Ils souhaitent devenir davantage maîtres de leur propre vie. Ils recherchent une forme d'épanouissement en transcendant les limites biologiques actuelles et, je cite, « l'abolition de la souffrance ». C'est très important, et l'exploration de l'univers. Pour atteindre ces objectifs, ils en appellent à, je cite, des recherches méthodiques et à un débat rationnel afin de comprendre ces futurs changements et les apprivoiser. Donc ils disent, à la fin de la déclaration, il s'agit de planifier l'avenir. Ce que je trouve intéressant avec Left Anonyme, c'est qu'elle s'inscrit dans ce paradigme, mais elle en souligne deux limites importantes. Deux limites qu'elle affronte dans sa propre pratique. D'une part, la disponibilité très restreinte des technologies aptes à servir ses buts d'augmentation ou d'émancipation. Disponibilité restreinte en termes de coûts et de réalisation effective. Qu'est-ce qui est effectivement disponible sur le marché? Et d'autre part, deuxième limite, la focalisation sur le futur lointain, l'obsession de buts grandioses, tels que ça, c'est ces termes, l'immortalité ou les super-pouvoirs, devenir Superman, etc. Elle est très critique là-dessus. Et pourquoi ? Parce que ça détourne de l'intérêt sur ce qui est effectivement possible ici et maintenant. Donc l'exclusivité et l'abstraction du transhumanisme, pour elle, c'est deux obstacles majeurs à l'avancement de cette cause que par ailleurs elle soutient. Et ce qu'elle veut, c'est le titre de la vidéo dont je vous parlais, c'est cybernétique pour les masses, côté populaire. Alors pour elle, les penseurs transhumanistes, c'est une réflexion stimulante, mais non suffisante, parce que manquant de d'expérimentation concrète. Donc si on veut, elle dit, il faut s'y mettre, quoi. C'est ça qu'elle dit, et qu'elle fait. Et je la cite, là, enfin, c'est moi qui traduis, mais elle dit « Les biohackers sont émergés à partir de la frustration de beaucoup vis-à-vis de la stagnation des groupes H+, existants. » H+, c'est le petit mot pour transhumanistes, si vous voulez. Groupe qui semblait être éternellement embourbé dans des dissections complexes, rien d'autre que des conjectures très bien informées sur le potentiel de l'humanité. Il nous a semblé que, sans un contingent d'êtres humains apprenant des erreurs des uns et des autres, se levant et faisant quelque chose pour les dispositifs implantés, nous aurons passé toute la journée à parler. L'avenir dont nous rêvions pourrait rester qu'une brume évanescente pour un autre siècle. Alors qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Pratique ce que j'ai envie d'appeler un transhumanisme de cuisine. Le terme « kitchen » revient très souvent dans son discours, alors que les hackers, disons informatiques ou même plus largement, aiment se réfugier dans des garages ou dans des sous-sols ou dans des banlieues de friches industrielles, une sorte peut-être un imaginaire des sous-bassements, de la mécanique, là, Left, elle s'installe dans sa cuisine, là où la plupart des gens apprêtent viande, légumes, féculents, et où d'habitude on réalise, on expérimente des agencements entre du vivant et un appareillage fait de couteaux, d'huile, de casseroles, de plaques électriques. Dans ce transhumanisme do-it-yourself domestique, elle parle de homebrew transhumanisme, elle se revendique d'une pratique anarchique, sans autorité, distribuée et collaborative. Elle précise que les biohackers n'incitent personne à les suivre, pour des raisons assez évidentes de risques sanitaires Et par contre, ils sont disponibles et accueillants pour toute personne qui désirerait s'y mettre en termes de structure, de forum, de conseils, d'échanges. D'ailleurs, pendant sa conférence, elle dit plusieurs fois, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai tout ce que vous voulez savoir. C'est un peu, c'est la culture maker, hein, pour aller vite. Je parle aussi à propos des imprimantes 3D. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle revendique à la fois une ouverture au grand public, tout ça doit être disséminé, et à la fois une forte dimension underground, contre-culturelle, de cette pratique où manifestement beaucoup ne sont pas prêts à s'investir, une sorte de double discours qui n'est pas si contradictoire qu'il n'y paraît, qui vient supporter en fait un désir d'expérimentation et de prise d'initiative. Et c'est vrai que si vous regardez un petit peu Biohacking sur Google Images, vous pouvez assez légitimement trouver ça un peu dégueulasse. Et surtout, enfin, moi je serais totalement incapable de le faire, mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Et à un moment, elle dit cette phrase assez marrante, enfin, tout à coup elle s'énerve, elle dit stay away from normal people are stupid. Les gens normaux qui vont vous dire c'est dégueulasse, c'est dangereux, ça fait mal, au secours, ils sont stupides. Et ce stupide, d'ailleurs, c'est intéressant par rapport à la volonté depuis les années 90, la volonté de respectabilité sociale qui anime les transhumanistes très souvent. Il faut entrer dans le débat, il faut convaincre, il faut... Là, alors, c'est vraiment pas le sujet. Si ça t'intéresse, tu viens. Si ça t'intéresse pas, tu me laisses tranquille. Et cette stupidité, elle est très précise. En fait, c'est le contraire de la valeur cardinale de l'EFT anonyme, qui est la curiosité. Elle parle de « deadly curiosity ». Alors, maintenant, voilà, comment s'incarne, c'est le cas de le dire, cette curiosité. Alors, l'EFT anonyme assume qu'elle n'est ni médecin, ni experte d'aucune sorte. L'anesthésie lui est interdite par la loi, donc elle doit s'en passer. Elle utilise du matériel le moins cher possible. Elle emploie parfois de la vodka en guise de désinfectant, de la vodka Rachmaninoff pour être précis, donc c'est la vodka low cost de Lidl, dont de toute façon on ne voit pas très bien à quoi d'autre elle pourrait servir, donc c'est un bien. Et donc cette revendication de non-expertise est intéressante, puisque évidemment à force d'expérimentation, elle s'en est bâtie une solide d'expertise, et c'est une des figures de proue comme ça de ce mouvement. Mais ce qui compte pour elle, c'est la tentative et c'est le souci d'avancer step by step, donc pas à pas. Et c'est intéressant de voir qu'elle parle beaucoup plus en fait de ses échecs, de ce qui n'a pas marché, et le fait d'une manière assez légère, puisque pour elle c'est autant d'occasions de se former, d'avancer, d'apprendre. Elle dit d'ailleurs qu'elle est surtout connue dans les salles, dans les services d'urgence de sa fille. C'est surtout là qu'elle est vraiment célèbre. Pourquoi elle parle de ses échecs très fréquemment ? C'est parce que c'est pour permettre à d'autres qui voudraient faire des choses similaires de ne pas reproduire les mêmes échecs. C'est vraiment le modèle aussi de collaboratif. Et puis alors, ces réussites, c'est quoi ? Alors, elles n'ont rien justement du caractère rutilant des espoirs transhumanistes. Principalement, il s'agit d'implantations sous-cutanées, au bout des doigts ou sur le dos de la main, d'implants type RFID, donc Radio Frequency Identification, c'est des puces, ou des aimants au bout des doigts. Là, le but, c'est d'étendre les capacités perceptives, de modifier en fait la stimulation nerveuse pour acquérir de nouvelles perceptions. Et en particulier l'acquisition, ou plutôt l'expérimentation, puisqu'en fait c'est des implants essentiellement provisoires qui sont souvent rejetés par l'organisme, donc qui s'infectent, mais c'est l'expérimentation de la perception des champs magnétiques, des champs électromagnétiques. Et son projet le plus ambitieux, je ne sais pas si elle est arrivée, parce qu'elle en parle justement autour de 2011, je n'ai pas trouvé de choses plus récentes. Elle a appelé ça Southpaw, donc en s'inspirant d'un dispositif qui existe, qui s'appelle Northpaw, mais qui est assez lourd, qui a une grosse batterie, et qui se porte en externe, et qui est une sorte de boussole de boussole permanente qui vous donne le sens, la perception du nord magnétique de la Terre. Sans peau, c'est l'idée d'implanter ça dans le corps, en réglant les problèmes de batterie, en réglant les problèmes de pérennité, etc. Alors on peut se dire, c'est ridicule, mais l'idée, c'est voilà, c'est dire pourquoi est-ce que moi, en tant qu'être humain, alors qu'il y a des animaux qui l'ont, semble-t-il, pourquoi moi, est-ce que je ne pourrais pas savoir en permanence où est le nord magnétique. Et donc cette approche de Left Anonyme, mais sur le plan de la relation avec les objets techniques, hein, c'est comme ça que j'avais commencé, c'est un peu un renversement de perspective par rapport au transhumanisme, disons, classique, qui lui attend des choses assez plutôt extraordinaires, en s'intéressant assez peu aux objets présents et disponibles. Elle s'intéresse à ce qui existe, mais ce qui existe de manière facilement accessible, pas cher, pour faire des expériences. Elle dit, je mets maximum 50 pounds dans un projet, sinon ça ne m'intéresse pas. Et là, du coup, sa relation avec les technologies se décline très souvent sur le mode de la douleur, des effets secondaires, où les techniques sont alors littéralement éprouvées. Et souvenez-vous de ma citation de la déclaration transhumaniste qui voulait abolir la souffrance. Là, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Peut-être un jour, mais... Et la conclusion de... Il y a un manifeste que vous pouvez trouver facilement en ligne qui s'appelle H+ Underground, 2011. La conclusion, c'est ça. C'est comme tout transhumaniste, je regarde vers l'avenir avec impatience, avec fierté et avec une crainte lumineuse pour notre espèce et sa transcendance de la nature. Pour citer David Zindel, ceux qui apportent la lumière doivent supporter de se brûler. Nous supportons cela avec joie. Alors, en vous racontant cette histoire, je voulais vous faire voir que le transhumanisme, précisément dans sa variété, entretient des rapports ambigus avec les objets techniques présents et à venir. Et la plupart, très souvent en tout cas, les transhumanistes se positionnent dans un régime que j'ai envie d'appeler de délégation vis-à-vis des évolutions technologiques et surtout de leurs producteurs, scientifiques, ingénieurs et autres industriels. Puisque, n'étant pas des producteurs ou des expérimentateurs, ils attendent de ceux qui font ces choses-là qu'ils produisent les éléments d'émancipation qu'ils attendent pour réaliser leurs espoirs. Et là, j'ai des citations de terrain qui disent ça explicitement. Le président de l'association française transhumaniste, dans une conférence récente, disait à un moment, j'appelle les transhumanistes à montrer l'exemple. Mais tout de suite, il ajoute en riant, pas en devenant tous des cyborgs, je vous rassure, mais en jouant le rôle de lanceur d'alerte. Justement, cette histoire de la pensée critique, en étant en veille permanente pour les évolutions techniques et en étant très attentif à ce qui se passe, il y a l'idée qu'ils sont compétents, particulièrement compétents pour thématiser les risques, et plus les risques d'ailleurs que les opportunités, très souvent. Alors l'idée de vous raconter ça, c'est évidemment pas pour dire, voyez, c'est les grands naïfs, c'est ridicule. Au contraire, là où ces gens-là m'intéressent, et ces idées et ces débats m'intéressent, c'est en ce sens qu'ils nous forcent à penser à notre rapport à nous, aux objets techniques, et un rapport qui est toujours indécidable, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire s'en est ou s'en est pas. Il y a beaucoup de discussions internes aux transhumanistes qui disent, mais c'est du transhumanisme ça, ou s'en est pas, s'en est plus, s'en est pas encore. Et donc, voilà, avec l'idée de cette question toujours de l'objet technique, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est de complexe, quelque chose qui est inscrit dans un monde, dans des mondes, et au sujet desquels il s'agit d'enquêter, qu'il faut suivre parfois à la trace, pour leur donner les mondes qu'ils n'ont souvent pas, d'une part dans le discours militant transhumaniste et dans une bonne partie de la critique intellectuelle contre le transhumanisme. Merci.
Bon, je remercie nos deux conférenciers pour un panorama relativement complet et bien thématisé, et je donne la parole à la salle maintenant pour les questions. Tout le monde a été convaincu, je vois. Tout le monde repart transhumaniste convaincu.
Non, mais c'est peut-être pour une question.
On ne peut pas faire si... Toi, tu peux te prendre.
Question très courte et au fond très simple. L'impression, c'est que vous nous présentez un mouvement qui est plus une espèce de galaxie à peu près sans centre, au fond. Donc, effectivement, le transhumanisme existe-t-il? Ça, c'est la première question qu'on peut effectivement se poser. Mais la deuxième qu'on peut se poser, c'est, au fond, comment expliquer le succès de ce mouvement? Le succès de ce mouvement tient à son nom, c'est-à-dire le nom transhumanisme, ouais, ça fait un peu baver, comme ça attire, ça excite. Si c'était pas mis sous ce nom-là, est-ce qu'ils auraient cette audience? Et alors, on pourrait rajouter cette question un peu disons, bon, le transhumanisme, c'est un nom déposé, une marque déposée. Et n'importe qui pourrait dire aujourd'hui, je fonde un mouvement transhumaniste, et puis... qu'est-ce qui se passerait pour lui?
Ça arrive tout le temps.
Bon, d'accord.
Tu y vas ou j'y vais?
Non, vas-y.
Vous savez, les transhumanistes,
c'est comme si on disait des trotskistes. Hein. Il y en a deux qui se rencontrent, ils font un mouvement, il y en a un troisième qui arrive, c'est une scission. Hein. Donc, des mouvements transhumanistes, vous en avez plein, c'est pas une marque déposée, Dieu soit loué. Je pense que le nom est plus un handicap, à mon avis. Je pense pas d'abord que le mouvement soit populaire, c'est pas du tout l'impression que j'ai, c'est-à-dire. C'est effectivement quelque chose dont on parle beaucoup maintenant. Comme je disais, bon, des gens qui se revendiquent transhumanistes, s'il y en a 3000 dans le monde, c'est vraiment la mort, hein. Je veux dire qu'ils vraiment utilisent le terme et le revendiquent. Et d'ailleurs, je remarque personnellement les auteurs qui, je trouve, ont écrit les choses les plus intelligentes dans le cadre d'une pensée transhumaniste. Je pense à quelqu'un comme David Deutsch, par exemple, qui a écrit des choses absolument fabuleuses, qui est un des pères de l'informatique quantique. Il n'utilise absolument pas le mot transhumanisme dans aucun de ses livres. Je ne sais même pas s'il le connaît. Donc, je pense que, contrairement, le mot était plus gênant. Et d'ailleurs, il y a eu souvent des débats pour savoir s'il fallait ou non conserver ce nom. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit au début, ça n'a rien à voir avec le surhomme nietzschéen, etc. Mais c'est un peu fatigant de le répéter toutes les 5 minutes. Et je pense que le nom est mal choisi. Je pense que c'est un mauvais nom pour deux raisons. Je pense que d'abord, effectivement, ça fait penser à des mouvements qui ne sont pas forcément très recommandables. Donc c'est toujours gênant de commencer en disant « on n'a rien à voir avec eux ». Parce que dès que vous commencez en disant « on n'a rien à voir avec eux », et Jean-Yves Poulin, il dit ça. ils ont peut-être à voir, finalement. Et ensuite, je pense que ça... c'est à un niveau plus profond, et c'est un peu ce que je disais à la fin, c'est très gênant parce que ça pose toutes les questions autour de la nature humaine et de la transformation de l'humain. Alors en fait, on est face à des transformations technologiques globales de l'environnement, de l'humain, des sociétés, etc. Et que isoler la transformation de l'humain comme si c'était une chose qui pouvait s'étudier toute seule, indépendamment des problèmes de climat, des problèmes de politique, des problèmes, etc. Je pense que c'est une erreur au sens profond du terme. D'ailleurs, je pense que et les premiers transhumanistes, qui s'appelaient d'ailleurs pas comme ça, les gens de la Alpha Society, eux le disaient bien, on veut faire la conquête de l'espace, et bon, bah, si on fait la conquête de l'espace, les gens pourront se permettre d'être immortels puisqu'ils seront dans l'espace. Mais je trouve que c'était une attitude qui était plus intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un projet général, et dans ce projet général, il y avait une transformation. Là, maintenant, je pense que c'est un petit peu oublié, je suis vraiment pas sûr que le nom leur serve en réalité. Ou alors, si leur serve, c'est comme repoussoir, évidemment, comme quand on dit, quand on parle de vous, c'est toujours bien, même comme repoussoir, peut-être ça fonctionne, mais je suis pas sûr que ça, qu'au final, ce soit un terme très, très, très bon.
Oui, là.
Là. Vous parlez comme ça. J'ai une question en fait toute simple à poser, qui apparaît, je pense, par le contraste de vos présentations, c'est contrasté. Je me demande dans quelle mesure vous-même, Susan, c'est une question que je me pose, hein, je vous pose. Quand vous dites c'est comme ça que ça se passera, hein, il y a cette formule, vous irez chez le médecin, on vous donnera pas de lieu.
Je peux me planter. Hein.
Hein, c'est comme ça que ça se passera, hein, ce sera ouais. Comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas quand même dans une perspective. Qu'on pourrait rapprocher, qui serait de l'ordre de la foi. Et il y aurait une foi dans un développement scientifique possible, et puis qui serait contrasté par l'intervention de Gabriel, le doc. Hein, on serait plutôt dans une réalité essentiellement assez décevante. Hein, ça veut dire la réalité en fait, de l'anthropotechnie, pour l'instant, c'est l'effet de rejet, d'intolérance, d'aimant implanté au bout des doigts.
Ce que je voulais dire, c'est comme ça que ça se passera si ça se passe. que je veux dire, c'est que je ne sais pas du tout si un jour on abolira le vieillissement. J'en ai aucune idée, hein, c'est que les choses soient claires. Mais je pense, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu affirmatif, alors que je peux naturellement totalement me planter. Peut-être que la pilule rouge, elle va arriver, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il me paraît douteux qu'effectivement, on vous dise « Vous allez être immortel demain, est-ce que vous voulez ou non l'être ?» C'est ça que je voulais dire. Bien entendu, je ne sais absolument pas, je n'ai aucune idée de savoir si le vieillissement sera aboli ou pas. Je n'en sais strictement rien, je ne suis pas biologiste, et déjà les biologistes ne sont pas d'accord entre eux, alors je ne vais pas me permettre de rentrer dans le débat.
J'avais pas vu ce côté déceptif, en fait, dans ce que je disais. Parce que pour moi, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que dans le geste, dans l'intention, et puis même dans ce qui se passe. C'est-à-dire, moi, je serais incapable de le faire, ça c'est sûr, parce que moi, une prise de sang, je m'évanouis. Donc voilà, chacun c'est...
Moi aussi.
On est mal. Mais je voyais pas du tout ça comme déceptif. Donc, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est l'écart entre effectivement des projections qui peuvent être assez rock'n'roll et qui sont intéressantes, et des pratiques underground, mais il y a des intervalles. Il y a des choses, pour certains transhumanistes, déjà utiliser une tablette, les réseaux sociaux, etc., c'est une forme d'intelligence collective et une expérimentation, un usage, disons, régulier et constant de ces outils-là. C'est une expérimentation sur qu'est-ce que ça pourrait donner, comment est-ce qu'on peut développer ça, ou les modèles alternatives. Olivier Nérault, qui sera là dans un mois, qui travaille beaucoup là-dessus, et qui est dans une perspective transhumaniste, justement.
J'aimerais peut-être ajouter aussi que tout ce qui se passe dans les cuisines ne sont pas forcément de petites choses. Par exemple, il y a des films sur Internet, vous pouvez voir, un des grands problèmes d'un implant sous-cutané, c'est le problème de la batterie. Comment faire que la batterie... Et je suis pas loin de croire que ceux qui, dans leur cuisine, sont en train d'essayer de trouver la solution à ça, vont aussi loin, et au moins aussi loin, et peut-être même plus loin, que les grandes industries qui sont en train de passer des millions de dollars sur la génération après lithium, si vous voulez. Donc il n'y a pas que du bidouillage, quoi. Il y a des vraies questions très profondes, techniques, hein, de compatibilité et de durée.
C'est une catastrophe.
J'ai particulièrement apprécié votre marque sur Pic la Mirandole. Mm-hmm. Et je pense qu'effectivement, bizarrement parlant, le transhumanisme, c'est l'humanisme de notre temps. Parce que depuis que je fais de la philosophie, je n'entends parler strictement que de la finitude humaine, de la culpabilité, de l'écrasement. Personne réalise vraiment que le XXe siècle a permis de multiplier par 7 le nombre des êtres humains et de doubler leur espérance de vie. Et tout ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu des massacres affreux et qu'il y a des pouvoirs atroces. Mais ce qui est une expérience personnelle de l'an 2000, entre autres traumatismes, j'avais dû voyager dans la soute à bagages à cause de l'OTAR, la soute à bagages du TGV. C'est pas un endroit très agréable. Mais autre traumatisme, je me rends à Paris au Grand Palais, il y avait une exposition sur le futur, personne, ça était vide, il y avait le gardien et moi. À côté, il y avait une exposition sur les impressionnistes dans la Méditerranée. Il était impossible d'approcher un tableau. Tout le monde voulait voir la maison de grand-maman peinte par Monet. Et c'était effrayant. Je me dis, voilà, il n'y a plus de futur. C'est-à-dire, ça n'intéresse personne. L'humanité est totalement déprimée. Elle sort d'un siècle qui lui offre des possibilités qui n'ont jamais été même envisagées par l'espèce humaine sur un mode totalement déprimé.
C'est vrai.
Durant toutes mes études, j'ai entendu parler que de la finitude humaine. Et puis de deux, trois choses comme la bioéthique qui était en fait destinée à abréger les souffrances et non le contraire. Donc j'apprécie que vous puissiez parler de la dignité de l'homme et je pense qu'il faut réfléchir sur la phrase sur laquelle l'humanisme, ah oui, l'humanisme était interdit bien entendu, aussi bien par Heidegger que par les autres, et cet humanisme-là est intéressant, même s'il est naïf, peut-être surtout parce qu'il est naïf. Mais voilà, il y a une couche de naïveté qui traverse depuis l'alchimie ces petits moments où les sagesses traditionnelles se démocratisent et où les individus produisent des synthèses étonnantes, comme justement l'hermétisme, où des choses qui étaient strictement réservées à des temples et à des collèges semblent leur devenir tout d'un coup accessibles à travers des livres ou à travers des systèmes de communication. C'est des moments très intéressants de la vie. Et au fond, en 2014, je dirais que l'espoir renaît.
Mais d'ailleurs, Nick Bostrom, donc, qui est un des deux fondateurs de la World Trans Humanist Association, qui aujourd'hui s'appelle Humanity Plus, fondée en 1998, dit dans une interview un peu fleuve sur comment, pourquoi on est arrivé là, il dit d'emblée Internet. Je me posais plein de questions sur le cerveau, sur la biologie, sur les technologies, sur... et j'ai eu accès à Internet. Enfin, il fait partie vraiment de la génération qui a connu l'arrivée des premiers trucs. Moi, j'avais même pas l'idée de à quoi ça pouvait ressembler. Première liste de diffusion, avant même les sites web. Et grâce à ça, j'ai pu rentrer en contact avec des gens. Lui était en Suède. J'ai pu rentrer en contact avec des gens en Angleterre, aux États-Unis, aux quatre coins du monde, qui se posaient les mêmes questions que moi. Et on a pu commencer à construire une réflexion commune. Donc il y a vraiment, c'est très frappant.
C'est le mouvement actuel, j'utilise le terme mouvement, alors j'ai dit qu'il ne fallait pas l'utiliser, donc je suis dans les idées. Disons, les groupes actuels sont nés effectivement sur Internet, il y avait deux listes de discussion, il y avait la mailing list extropienne d'un côté, il y avait une liste qui s'appelait, non pas H+, mais supérieur H, vous voyez, comme ça, et c'est là effectivement que Nick Bostrom s'est branché, a connu Anders Sandberg, etc. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que... tu disais tout à l'heure, personnellement, je hais les réseaux sociaux, hein, mais je pense qu'effectivement, l'une des choses très nouvelles et très transhumanistes, pour le coup, je ne sais pas si ça change la nature humaine, mais je pense que l'Internet, c'est-à-dire que même que ça soit sous forme de réseaux sociaux, c'est quand même que ça a été une ouverture aux connaissances, et je crois qu'on risque ce que raconte Nick Bostrom, on l'a tous vécu, c'est-à-dire on était tout seul dans notre coin, et tous ces gens, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que tout le monde a dit une fois, je me rappelle, à une conférence de transmission, c'est comment vous êtes-vous intéressé au transhumanisme? Ben je pensais ça, j'étais tout seul, et je suis tombé sur le site d'Anders Sandberg, c'était toujours ce site-là, et je me suis dit, il y a des gens qui pensent comme moi. Et c'est intéressant parce que c'est un des premiers mouvements, et c'est certainement pas le dernier, qui est vraiment né avec l'Internet et qui montre que 20 ou 30 personnes qui avant n'auraient rien pu produire, parce que quand vous êtes 3 dans une ville, vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous êtes 300 dans le monde, vous pouvez commencer à faire un site web, une publication, etc. Et de voir qu'effectivement des choses comme ça apparaissent, et les transhumanistes ne sont pas les seuls. Je parlais des bodyhackers, par exemple, les biohackers, etc., naissent sur le net, etc. C'est des choses extraordinaires. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'optimisme, etc. C'est d'ailleurs marrant, parce que j'ai remarqué souvent, moi je ne suis pas du tout expert en philo, hein, alors bon, mais il y a souvent dans le terme post-humain et post-humanisme une espèce de confusion dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a le post -humanisme, est-ce la fin de l'humanisme, la fin de l'homme à la Foucault, etc., et les post-humains, de type de ceux dont on parle. Et je dis souvent, attention, les transhumanistes, ce sont des modernistes, ce ne sont pas des post-modernes. Ils croient au progrès, dur comme fer, ils croient à la manifeste destinée, j'utilise souvent ce terme qui est tiré, je crois, des premiers colons américains, c'est-à-dire à la destinée de l'homme, etc., et à la dignité de l'homme. Et c'est assez marrant, parce que là aussi, justement, on parlait du mot, en plus, il y a le courant post-moderne qui se mêle de tout ça, qui fait qu'on est encore plus dans la confusion de savoir ce qu'on dit, c'est-à-dire effectivement, est-ce que ce sont des humanistes ou des post-humanistes au sens au-delà de l'humanisme? Et il y a des gens entre les deux, comme Donna Haraway dont tu parlais, qui se revendiquent en même temps du postmodernisme et du transhumanisme technologique, etc. Donc on est quand même beaucoup dans une espèce de c'est des fois très difficile de définir le sujet, quoi.
Non, mais en même temps, vous avez dit qu'ils étaient un peu mystiques. Pour beaucoup, donc ils sont modernistes, mystiques.
Alors,
alchimiste.
Non, alors attention, c'est-à-dire qu'il y a, il y a plusieurs. Comme si vous avez interviewé un transhumaniste de base, il ne va pas vous dire je suis mystique. Il va vous dire non, moi la religion, je ne suis pas du tout dedans. Si vous commencez à creuser, qu'il vous dit bon, on va vers la singularité, le point oméga, etc., ça commence à être un discours mystique. Si maintenant vous voyez les courants, si vous analysez l'ensemble des courants dits underground, un petit peu de la technologie, les courants technophiles underground, vous allez remarquer qu'il y a des connexions qui ne sont pas généralisées entre les mouvements, par exemple certains mouvements de l'occultisme et certains mouvements transhumanistes. C'est pas généralisé. Nick Bostrom, par exemple, il va dire « Moi, je n'ai jamais entendu parler de ces gens-là. » Et je suis sûr qu'il n'en a jamais entendu parler. Mais j'en connais d'autres qui se livrent à la fois à ce qu'on appelle la chaos magic, par exemple, et au transhumanisme. C'est-à-dire la chaos magic, c'est une espèce de théorie comme quoi on peut absolument changer l'ensemble de ses croyances, comme le faisait John Lilly dans son caisson, en vue d'obtenir tel ou tel résultat. Et je peux vous dire, pour en connaître personnellement, qu'il y en a plus d'un qui sont là-dedans.
Mais, hein. Ce qui me paraît assez normal.
Moi aussi, mais il y en a qui... donc, si vous voulez, bon, il y a toute une série, bon, j'ai été rapide, mais il y a tout un ensemble de connexions. Mon Timothy Leary est l'exemple même d'une personnalité qui est aussi entre mysticisme et technologie, mais il n'est pas le seul. L'écrivain beatnik William Burroughs, par exemple, est quelqu'un qui est complètement là-dedans. C'est quelqu'un qui va défendre le clonage humain, qui dit que l'avenir de l'homme, c'est dans l'espace, et qui, en même temps, va lancer des envoûtements à un restaurant grec qui l'a mal servi. Et je vous raconte une histoire authentique, hein. J'invente pas cette histoire. Il a vraiment essayé d'envoûter un restaurant grec qui avait été pas sympa avec lui. Et donc vous avez comme ça beaucoup de courants. Vous avez un disciple, par exemple, de William Burroughs, si on peut parler de disciple, qui s'appelle Genesis Peorich, qui est l'un des pères de ce qu'on appelle la musique industrielle, c'est-à-dire une espèce de rock assez d'avant-garde, etc., qui défend la théorie du pandrogyne, qui dit qu'il faut sortir de la tyrannie de l'ADN, et qui a créé son espèce de société secrète à un moment qu'il appelait le Temple of Psychic Youth. Donc vous avez comme ça des espèces de courants comme ça. Mais si vous allez voir quelqu'un comme Kurzweil, malheureusement, il va plus vous faire penser à un témoin de Jéhovah qu'à un occultiste. Il en a déjà le costume trois pièces. Effectivement, c'est des courants, il y a de l'underground dans l'underground, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez, il y a un exemple que je raconte souvent, qui est l'histoire de un petit peu de la tentative de respectabilité du transhumanisme, c'est la mort de Timothy Leary. Je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. D'abord, c'est assez drôle, même si c'est assez morbide. Et ensuite, je trouve que c'est très symptomatique de la façon dont le mouvement s'est séparé de l'underground. Timothy Leary avait signé pour se faire cryogéniser. Il n'y croyait pas, mais il trouvait que c'était un bon moyen, une espèce d'acte dada, de dire oui, j'aime bien mon corps, je m'aime bien, pourquoi ne pas me faire cryogéniser, le seul truc que je veux, c'est pas me faire réveiller par les républicains. Donc il avait signé pour ça, il était très lié donc au mouvement transhumaniste et cryonique, et en même temps il était quasiment agonisant, et il faisait venir tous ses potes de la bohème de Los Angeles qui organisaient des espèces de fêtes à n'en plus finir avec toutes sortes de substances, etc. C'était plus des hippies, parce qu'on est dans les années 95, c'était au contraire des gens qui étaient souvent dans un hard rock assez métal, assez brumeux, comme Ministry, etc., les trucs assez violents. Timothy Leary avait son caisson pour se faire congeler dès qu'il mourait, etc. Et ils avaient mis des bougies dessus pour faire un hôtel, enfin, etc. Et les cryonicistes ont finalement viré Timothy Leary. Ils ont dit, on peut pas vous congeler dans ces conditions, avec ces gens qui sont complètement bourrés tout le temps, complètement défoncés autour de vous, etc. Et finalement, Timothy Leary s'est pas fait congeler. Ses cendres ont été envoyées dans l'espace en compagnie de celles de Gene Roddenberry, qui est l'auteur de Star Trek. Voilà, c'est tout ce qui est arrivé. Mais mis à part le côté très amusant, peut-être pas pour Leary, quoi, que ça avait l'air de bien l'amuser aussi quand même, c'est intéressant parce qu'on voit la séparation, je dirais, entre un transhumanisme qui cherche souvent à être hyper respectable, et qui plus il va avoir des idées délirantes, plus il va essayer de devenir respectable, et je trouve plus il va essayer de devenir respectable, plus il va devenir effrayant. quelque part. C'est-à-dire que finalement, on a cette image du transhumanisme qui est celle de la presse, qui est celle du Rutgers Veil, de la Singularity University, de ces espèces de représentants d'une espèce de capitalisme international dont on se demande s'ils conspirent pas pour créer un homme nouveau, avec un côté un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu la série Wild Palms qui était sortie sur Arte, effectivement, toujours costard cravate, etc., très comme ça, qui sont plutôt inquiétants. Et plus ils cherchent à être respectables, plus ils sont inquiétants. Et je pense que c'est intéressant justement de remettre les choses un petit peu dans le contexte, mais il faut savoir que il n'y a jamais eu de vraie coupure. Par exemple, l'un des grands amis de Timothy Leary et un des grands penseurs de la contre-culture qui s'appelle Ken Goffman, qui a écrit une histoire de la contre-culture, mais qui est également connu sous le nom de Ario Sirius, quand il fait lui-même de la contre-culture, est devenu pendant plusieurs années, je ne sais pas s'il ne l'est pas encore, le rédacteur en chef de Humanity Plus Magazine. Donc, il y a encore des liens qui existent, mais c'est vrai que là, on est dans l'underground de l'underground, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le proclamer.
Hein, au fond, on pourrait dire que c'est une espèce de constellation désirante, ce machin.
Oui, c'est, moi je dis c'est un ensemble de bon, il y a un mot très à la mode, c'est des mèmes. Bon, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est des idées qui circulent, à mon avis, beaucoup par la littérature et les médias de science-fiction, et qui naissent souvent spontanément chez les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'une personne qui a eu l'idée de télécharger l'esprit dans un ordinateur, il n'y a pas eu qu'une personne qui veut aller dans l'espace ou devenir immortel ou ce que vous voulez. Donc c'est des idées, c'est des gens qui souvent, comme je disais, comme tu disais pour Nick Bostrom, au début pensaient qu'ils étaient le dingue de la famille ou du bloc, et puis qu'ils découvrent qu'il y a des gens qui pensent comme eux. Et c'est un mouvement bottom-up. On est dans le bottom-up, on n'est pas dans le top-down. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gourou, il y en a certains qui cherchent à avoir la position de gourou, sans doute, mais ce n'est pas quelque chose de défini et de clair.
Voilà, je parie les 10 heures. Je pense que la discussion peut continuer dans le bar. Je pense que nos deux conférenciers seront très disponibles à vos questions. Et puis je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Merci beaucoup.